Chapitre 2. Tout en se promenant, Selden songeait que les jardins impériaux étaient l'image même de la paix. Il lui était difficile de concevoir, ici même au cœur du domaine privé de l'empereur, qu'il se trouvait en réalité sur une planète qui, cette zone exceptée, était entièrement coiffée par un dôme. En cet endroit précis, il aurait pu se croire sur son monde natal d'Hélicon ou sur le monde natal de Gruber, Anacréon. Bien sûr, le sentiment de paix était une illusion. Le domaine était soumis à une sécurité redoublée. Jadis, 1000 ans plus tôt, l'enclave du palais impérial était certes moins grandiose, moins à l'écart d'un monde qui commençait seulement à bâtir des dômes au-dessus de chacune des régions, mais elle était ouverte à tous les citoyens, et l'empereur lui-même en parcourait les allées, sans aucune garde, inclinant la tête çà et là, pour saluer ses sujets. Puis le dispositif de sécurité avait été mis en place, et il était devenu impossible d'envahir l'enclave depuis Trentor. Cela ne supprimait pas le danger pour autant, mais s'il devait se présenter, il viendrait de fonctionnaires impériaux mécontents, et de soldats corrompus et achetés. C'était en fait à l'intérieur de l'enclave que l'empereur et son entourage couraient le plus de risques. Que serait-il arrivé si, près de 10 ans plus tôt, Selden n'avait pas été accompagné par Dors Venabili? L'incident s'était produit durant la première année de Selden au poste de premier ministre, et il n'était que naturel, avait-il alors supposé, après les faits, que le choix inattendu de l'empereur ait provoqué des rancœurs et des jalousies. Combien d'autres postulants, qui s'estimaient plus qualifiés que lui, au vu de leurs années de service ou surtout de leur propre jugement, avaient appris cette nomination avec colère? Ils ignoraient la psychohistoire ou l'importance que l'empereur y attachait, et pour eux, le meilleur moyen de corriger la situation était de corrompre quelques-uns des gardes attachés à la protection du premier ministre. Dors avait dû être plus méfiante que Selden, à moins que, après la disparition de Demerzel du devant de la scène, ses instructions quant à la sécurité de Selden eussent été renforcées. Quoi qu'il en soit, durant les premières années de fonction de celui-ci, on la voyait presque toujours à ses côtés. C'est par une belle fin d'après-midi d'une chaude journée d'été que Dors nota un reflet de soleil couchant. Un soleil qu'on ne voyait jamais sous le dôme de Trentor, sur le métal d'un fulgurant.
« Couche-toi, Harry » cria-t-elle soudain tandis qu'elle se précipitait sur un sergent. « Donnez-moi cette arme, sergent » dit-elle d'une voix crispée.
L'assassin en puissance, un instant figé par le spectacle de cette femme qui se ruait sur lui, réagit promptement, élevant l'arme qu'il avait dégainée. Mais Dors était déjà sur lui, refermant l'étau de sa main sur le poignet droit du sergent et soulevant bien haut son bras.
« Lâchez cette arme !» souffla-t-elle entre ses dents serrées.
Le visage du sergent se tordit tandis qu'il essayait de dégager son arme.
« N'essayez pas, sergent !» prévint Dors. « Mon genou est à 10 centimètres de votre bas-ventre, et si vous bougez ne serait-ce qu'une paupière, vos parties ne seront plus qu'un souvenir, alors plus un geste. »« Parfait. Maintenant, ouvrez la main. Si vous ne lâchez pas ce fulgurant immédiatement, je vous brise le bras. »
Un jardinier vint à la rescousse avec un râteau. Dors lui fit signe de s'écarter. Le sergent lâcha son arme, qui chut à terre. Selden était arrivé. « Je prends les choses en main, Dors.
Tu ne prends rien du tout. File entre ces arbres et emporte l'arme avec toi. Il peut avoir des complices prêts à agir. »
Dors n'avait pas lâché sa prise.
« Maintenant, » dit-elle au sergent, « je veux que vous me donniez les noms de tous ceux que vous avez persuadés d'attenter à la vie du premier ministre. »
Le sergent garda le silence.
« Ne sois pas idiot, » reprit Dors. « Parle !»
Elle lui tordit le bras et il s'effondra à genoux. Elle posa le pied contre son cou.
« Si c'est au silence que tu aspires, je vais t'écraser le larynx et tu resteras muet pour le restant de tes jours. Mais pour commencer, je m'en vais t'arranger comme il faut. Je ne te laisserai pas un seul os intact. Tu ferais mieux de parler. »
Le sergent parla. Plus tard, Selden s'était étonné. « Comment as-tu pu faire ça, Dors ? Je ne t'aurais jamais cru capable d'une telle violence. » À quoi Dorse répondit sans se démonter : « Je ne lui ai pas fait grand mal en réalité, Harry. La menace a suffi. De toute façon, ta sécurité passait avant tout. Tu aurais dû me laisser m'occuper de lui. Pourquoi ? Pour ne pas heurter ton orgueil de mâle ? Tu n'aurais pas été assez rapide. De plus, même si tu avais réussi à le maîtriser, tu es un homme. Donc ça n'aurait étonné personne. Je suis une femme. Or, dans la croyance populaire, les femmes ne sont pas jugées aussi féroces que les hommes et la plupart n'ont pas la force physique d'accomplir ce que j'ai fait. La rumeur va enjoliver l'incident et j'inspirerai la terreur à tout le monde. Plus personne n'osera s'attaquer à toi par crainte de ma réaction. Par crainte de ta réaction. Et surtout de l'exécution. Le sergent et ses complices sont promis à la peine capitale, tu le sais bien. » À ces mots, un voile d'angoisse recouvrit le visage d'ordinaire impassible de Dorse. Elle ne pouvait supporter l'idée de la mise à mort, même celle du sergent Félon qui n'aurait pas hésité, lui, à tailler en pièces son Harry bien-aimé. « Mais, s'exclama-t-elle, il est inutile d'exécuter les conspirateurs, l'exil suffira, c'est trop tard. » Cléon ne veut pas entendre parler d'autre chose que d'exécution, ce sont ses propres termes. « Tu veux dire qu'il a déjà arrêté sa décision ?» Il l'a fait sur le champ. « Je lui ai dit que l'exil ou l'emprisonnement seraient des peines suffisantes. » Mais il a refusé. Et il a ajouté « Chaque fois que j'essaye de résoudre un problème par une décision franche et énergique, Demerzel jadis et vous maintenant me parlez de despotisme et de tyrannie. Mais je suis ici dans mon palais, c'est mon domaine, ce sont mes gardes. Ma sécurité dépend de la sûreté de cet endroit et de la loyauté de mes gens. Tout manquement à cette loyauté absolue ne vaut rien d'autre que la mort immédiate à son auteur. Comment sinon garantir votre sécurité? Comment surtout garantir la mienne? » J'ai rétorqué alors qu'il devrait y avoir un procès. « Bien sûr, » m'a-t-il répondu. « Un procès expéditif, en cour martiale, et j'y compte bien sans qu'une seule voix se prononce contre l'exécution. Je veillerai à ce que ce soit bien clair. » Dorse parut atterré. « Tu prends cela avec un tel calme. Es-tu d'accord avec l'empereur ?» Seldon acquiesça à contre-cœur. « Oui. Parce qu'on a voulu attenter à ta vie ? As-tu renoncé à tes principes par désir de vengeance ? Non, Dorse. Ce n'est pas dans mon caractère. Mon souci n'est pas la sécurité de ma personne, ni même celle de l'empereur. S'il est un enseignement à tirer de l'histoire récente de l'Empire, c'est que les empereurs vont et viennent. C'est la psychohistoire qu'il faut protéger. Même s'il m'arrive quelque chose, la psychohistoire sera opérationnelle un jour. Mais l'effondrement de l'Empire s'accélère, et nous ne pouvons plus attendre. Or, je suis le seul à avoir suffisamment progressé jusqu'ici pour mettre les techniques nécessaires en pratique à temps. Et il te faudra encore enseigner aux autres ce que tu sais, ajouta Dorse gravement. C'est ce que je fais. Hugo Amaril est un successeur raisonnable, et j'ai déjà formé un groupe de techniciens qui seront utiles un jour, mais ils ne seront pas aussi... Il se tut. Pas aussi bon que toi? Ni aussi sage, aussi doué? Vraiment? Il se trouve que c'est ce que je pense. Je ne suis qu'un homme, Dorse. La psychohistoire est mon invention. Et si j'en ai la possibilité, je veux en retirer le crédit. Un homme, soupira Dorse, avec un hochement de tête presque triste. Les exécutions eurent lieu. On n'avait pas vu de purge de cette ampleur depuis plus d'un siècle. Deux ministres, cinq sous-officiers et quatre soldats, dont l'infortuné sergent, trouvèrent la mort. La totalité des gardes furent soumis au crible de l'enquête la plus rigoureuse. Bon nombre furent relevés de leurs fonctions et exilés sur de lointaines planètes. Dès lors, on n'entendit plus parler de déloyauté. et si grande était la réputation des mesures de protection entourant le Premier ministre, sans parler de sa terrifiante garde du corps, beaucoup la surnommaient la tigresse, que Dorse n'avait même plus besoin de l'accompagner partout. Sa présence invisible constituait un bouclier suffisant, et l'empereur Cléon put goûter à près de 10 années de calme et d'absolue sécurité. À présent, la psychohistoire était enfin parvenue au stade où une certaine forme de prédiction devenait réalisable. Et, alors que Seldon traversait les jardins pour passer de son bureau de premier ministre à son laboratoire de psychohistorien, il eut le pressentiment que cette ère de paix pourrait bientôt s'achever.